France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives, l'engagement selon Malraux. Chapitre 3, jusqu'au bout de l'engagement. Nous nous en sommes rendus compte au cours des deux premiers épisodes, l'engagement des écrivains ne prend plus la même forme aujourd'hui que du temps de Malraux. Un exemple, si la guerre en Ukraine peut faire l'objet ici ou là de prises de position d'auteurs et d'autrices, on ne s'attend pas à ce qu'ils et elles se rendent sur place, et d'ailleurs ils ne l'ont pas fait. Enfin si, un écrivain philosophe l'a fait, décidément c'est toujours le même, il s'appelle Bernard-Henri Lévy et il a 76 ans, comme si ce type de réflexe d'aller sur le front était avant tout générationnel. Mais si BHL a visité des zones de combat, on ne peut pas dire non plus qu'il ait combattu avec l'armée ukrainienne. Alors que Malraux, lui, a pris les armes. Il les a prises aux côtés des républicains espagnols. Et il a vraiment cherché à faire pencher la balance du côté de la démocratie. C'est ce que nous allons vous raconter aujourd'hui.
L'engagement selon Malraux. Une série de salles des archives par Mathieu Garrigou-Lagrange, réalisée par Delphine Lemaire. Attaché de production, Lily Cornaer.
À la fin de l'épisode précédent, nous avons laissé André Malraux dans la gloire de son prix Goncourt de 1933, obtenu pour son livre sur la révolution communiste chinoise, La condition humaine. Dans ces années 30, il prend position sur de très nombreux sujets et s'affirme comme un écrivain de gauche, proche des communistes, sans leur être totalement affilié. Il faut dire que Malraux est assez inclassable, du moins en apparence. Quand il se trouve dans un pays capitaliste, il défend le socialisme. Mais quand il est en URSS, il se prononce pour la liberté d'expression, l'indépendance et l'individualisme, toutes choses nécessaires aux artistes, pense-t-il, pour pouvoir s'exprimer. Mais de manière générale, face à la montée des fascismes en Europe, il se tient surtout aux côtés de l'Union soviétique. D'ailleurs, Malraux n'a jamais vraiment dénoncé Staline dans l'entre-deux-guerres, malgré les purges, les procès truqués, le goulag et tous les autres crimes du stalinisme.
À l'heure de sa mort, le géorgien Staline, élevé dans l'internationalisme, condamné pour internationalisme, regardant par la fenêtre du Kremlin tomber la neige qui ensevelit les chevaliers teutoniques et la grande armée, a eu le droit de dire « J'ai refait la Russie ».
Son engagement pour la démocratie, pourtant, est indéniable. En 1935, paraît son livre « Le temps du mépris ». Il y fait entrer le lecteur dans les pensées de son personnage, Kassner, un militant communiste allemand arrêté par les nazis. Sur le plan littéraire, ce court roman ne fait pas l'unanimité. D'ailleurs, Malraux lui-même l'aurait qualifié de « navet ». Il n'en reste pas moins l'un des premiers romans français à dénoncer explicitement le nazisme, et sa préface est un manifeste sur l'engagement de l'artiste. Cohérent avec lui-même et avec ce livre, Malraux s'engagera bientôt en Espagne. Petit rappel chronologique. Le 16 février 1936, le Front populaire espagnol, la gauche donc, remporte les élections à Madrid. Mais la droite monarchiste s'oppose farouchement à ce nouveau gouvernement et de graves tensions se font jour un peu partout dans le pays. Elles vont s'aggraver tout au long du printemps jusqu'à l'assassinat le 13 juillet de José Calvo Sotelo, une figure de la droite tuée par des membres des forces de sécurité républicaines. Quatre jours plus tard, le général Franco se sert de ce prétexte et lance un coup d'état militaire contre le Front populaire. La guerre civile a commencé. À Paris, Malraux suit de très près cette actualité politique. Dès l'annonce du soulèvement contre la République, il se rend à l'ambassade espagnole et propose une initiative étonnante, mettre sur pied une escadrille aérienne afin de soutenir le combat des républicains. Deux jours plus tard, il est à Barcelone et bientôt à Madrid. Sophie Doudé, vous êtes agrégée de lettres modernes et enseignante à Sciences Po Aix. Vous avez notamment publié une biographie d'André Malraux dans la collection Folio Biographie. Est-ce que vous diriez qu'avec la guerre d'Espagne, Malraux arrive à une certaine forme de maturité par rapport à son engagement politique ?
Quand arrive la guerre d'Espagne, Malraux trouve à la fois son engagement, son combat, parce qu'il est à la fois aux côtés des communistes. Et d'autre part, il est aussi dans une sorte de maturité intellectuelle. Le dernier roman précédent qu'il avait écrit et qui est relativement connu, c'est Le Temps du Mépris. Vous avez rappelé qu'il le considérait comme raté. Et l'espoir va être ce lieu assez incroyable, assez unique dans la carrière littéraire de Malraux, de conjonction entre le réel, l'engagement, et la littérature, l'esthétique.
Donc il réagit immédiatement aux événements espagnols dès les tout premiers jours de la guerre.
Oui, immédiatement. Alors il avait déjà pris des contacts avec la République espagnole, il avait des liens parce qu'il était proche du Front Populaire et notamment de Léo Lagrange et de Pierre Cotte qui étaient au pouvoir. Il avait des liens avec l'Espagne. Et d'autre part, il y avait eu des réunions entre les intellectuels antifascistes et notamment en Espagne. Et d'autre part, il a des liens avec des intellectuels. On peut penser par exemple à Picasso, dont il sera à ce moment-là relativement proche. Et donc, il est préparé intellectuellement et politiquement à ce qui va se passer en Espagne. Et il réagit immédiatement, ce qui est quand même tout à son honneur. Ils seront peu à réagir, et surtout à réagir dans ce sens-là, c'est-à-dire pour défendre la République espagnole. Donc immédiatement, il se rend en Espagne. Il va découvrir beaucoup de choses, et notamment politiquement, il va découvrir la singularité de l'Espagne, qui est quand même la force de l'anarcho-syndicalisme et des syndicats sur place, qui ne sont pas d'obédience communiste. Il va être assez ébloui, séduit. Et ensuite, il va vouloir agir. Donc il va négocier assez rapidement avec le Front Populaire, avec Léo Lagrange et avec Pierre Cotte, pour obtenir des avions pour s'engager en Espagne et commander l'escadrille qui va devenir l'escadrille Espagna.
Alors on a l'impression qu'avec cet engagement espagnol, Malraux passe aussi dans un autre moment de sa vie à lui, un moment qui est encore davantage tourné vers les autres et un peu moins tourné sur lui-même. Est-ce que c'est juste, selon vous, de le dire ?
Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs au passage une trajectoire qui commençait à se dessiner dans ses romans eux-mêmes, au sens où la plupart de ses premiers romans, je pense au Conquérant et même La Condition humaine, sont centrés sur une problématique qui est celle de l'engagement individuel et de l'individualisme et de sa rencontre avec le communisme et la bataille collective. Et donc, il y a une trajectoire à l'intérieur des romans que Malraux éprouve lui-même dans sa propre vie. Et l'engagement en Espagne va lui permettre de éprouver véritablement la fraternité, la collégialité, le compagnonnage avec les aviateurs, avec les intellectuels et avec ceux qu'il va appeler les copains jusqu'à la fin de sa vie.
Alors comment ça se passe exactement en Espagne ? D'abord, pourquoi monter une escadrille d'avions pour aider l'Espagne républicaine ? Lui qui n'est ni militaire ni aviateur, pourquoi ne pas s'engager, au sol ?
Alors, ça l'a jamais arrêté d'avoir quelques impossibilités matérielles. C'est même peut-être une de ses singularités à Malraux, c'est de donner vie à ses rêves, voire à ses fantasmes. Donc, effectivement, il n'est pas très compétent ni dans le domaine de l'aviation, ni dans le domaine des machines tout court, hein, puisque je crois que jusqu'à la fin, il a eu un chauffeur, il ne conduisait pas. Alors, évidemment, il y a une intuition derrière, une intuition qu'on peut appeler stratégique, militaire, c'est qu'il a compris que la guerre à venir, celle qu'on va appeler la Seconde Guerre mondiale, allait se jouer sur un terrain qui était celui de l'aviation. Et que ça allait être absolument déterminant de conquérir et de gagner la bataille des airs. Et donc, il part sur l'idée de l'aviation. D'autre part, il fréquente depuis les années 30 Corglion Molinier, avec lequel il a tenté une grande aventure qui était de retrouver la cité de la Reine de Saba. Donc, il a déjà été dans un avion à côté en fait de l'aviateur. Ça l'a passionné, comme d'autres d'ailleurs à l'époque. On peut penser par exemple à Saint-Exupéry, dont évidemment c'est le métier. Et donc, il y a à la fois une intuition stratégique militaire et sans doute une passion pour l'aventure et le commandement.
Alors on a critiqué parfois André Malraux en disant au fond il a acheté des avions avec l'argent de Madrid, avec l'argent du gouvernement espagnol, il a lui-même fait des bénéfices, c'est ce qu'on peut entendre ou lire parfois à ce sujet sur l'achat et la vente de ces avions. Est-ce que vous infirmez, est-ce que vous confirmez ?
Alors je suis pas spécialiste du domaine sur les modalités de l'achat. Ce qu'on sait, c'est que les avions qu'il va mobiliser sont soit donnés ou en tout cas effectivement passent par le biais du Front Populaire. Et c'est souvent des avions au passage qui sont assez anciens, qui ont été déclassés entre guillemets et qui sont pas véritablement considérés comme efficaces en termes de combat. Après, je dirais que la question que vous posez est plus vaste, c'est de savoir comment Malraux va ou pas utiliser des mercenaires. Je pense que c'est moins le matériel qui est en cause que le profil des personnes qui vont s'agréger autour de lui et qui, dans un premier temps, sont effectivement attirées à la fois pour des questions sans doute idéologiques, et c'est évidemment très louable, mais aussi des questions financières. Et Malraux, de ce côté-là, a toujours été relativement pragmatique, c'est-à-dire que il paye pour que des gens viennent et fassent le travail en tant qu'aviateur privé. Très rapidement, cette question de la mobilisation, elle va se poser au sein de l'escadrille Espagna et il va faire le ménage. C'est-à-dire que les gens qui ne venaient que pour l'argent et qui n'avaient pas de mobilisation ni de conviction vont d'abord déchanter parce que on paie peu, et d'autre part parce qu'il faut effectivement cet encouragement indispensable, idéologique, fraternel pour tenir quand on a des avions qui volent assez mal, qu'il y a beaucoup d'accidents et que la victoire n'est pas toujours au bout du champ d'aviation.
Parce qu'il était imprégné de lyrisme et d'épopée, Malraux a souvent été suspecté d'utiliser ses engagements pour nourrir sa propre légende, nous l'avons dit. Mais ce n'est pas du tout l'avis de Paul Nothomb, qui a combattu sous ses ordres et qui a publié un livre intitulé « Malraux en Espagne ». Et dans cet ouvrage, il écrit une phrase « Je peux témoigner que derrière l'écrivain déjà célèbre, l'homme que j'ai peu à peu appris à connaître dans l'action quotidienne ne faisait pas de littérature. Les historiens pourfendeurs de légendes en seront ici pour leurs frais. L'auteur de l'espoir a effectivement combattu en Espagne. »
Capitaine Schreiner, Silvio está en la escuadrilla de Ristófeno, ¿no es así?
Sí.
22 aviones aliados.
Oficiales.
L'espoir, c'est justement ce roman de Malraux qui raconte son combat en Espagne et qu'il a adapté sur grand écran, dans la foulée, avec le cinéaste Boris Peskin. On en entend un extrait d'ailleurs en fond sonore. Il existe un document dans lequel l'écrivain et ministre de la culture espagnole Georges Semprin atteste de la véracité des faits racontés dans l'espoir. On l'écoute.
Ce qui est absolument étonnant dans l'espoir, je crois, c'est la vérité. La vérité de la partie, disons, reportage, pour employer un mot facile. L'espoir est un roman qui a sa forme, sa structure particulière, mais qui est basé sur une analyse de faits réels, même si les personnages sont souvent présentés sous des pseudonymes. Et ce qui est absolument frappant, c'est comment on retrouve toute l'évolution, tous les mouvements de l'histoire de l'Espagne pendant les mois de la guerre civile qui sont analysés dans l'espoir, comment on retrouve la vérité de tout ça dans le livre. Et comment on retrouve aussi la transposition littéraire. C'est ça qui est très frappant, c'est l'authenticité de la vision. Je ne sais pas comment il a travaillé, parce qu'il n'est pas resté. On n'a pas retrouvé des carnets de Malraux à propos de l'espoir, des brouillons. On ne sait pas comment il a travaillé, mais il a travaillé en tout cas avec une tellement près de la réalité que c'est hallucinant.
Sophie Doudé, que vous inspire cette archive du 26 décembre 1980 ?
C'est très juste au sens où, si on reprend dans l'ordre les éléments des archives que vous venez de mentionner, d'abord il y a des combats, et Malraux a participé aux combats, et quelque chose qu'on ne peut pas lui refuser, c'est son courage.
C'est-à-dire qu'il était lui-même dans les avions, il ne se contentait pas d'organiser à terre les vols des différents aviateurs.
Exactement. Il a été à plusieurs reprises dans des missions, ce qui lui permet d'ailleurs de pouvoir justement, comme le dit Georges Semprin, pouvoir transférer avec beaucoup de justesse et de lyrisme les passages par exemple de vol et de combat aérien. Ce qu'il aurait sans doute pas pu faire avec une telle densité, avec une telle véracité, s'il n'avait pas connu lui-même ces combats. La légende, enfin les témoignages, dont ceux de Paul Nothomb que vous avez cités, tendent à montrer que même il avait tendance à déclamer à l'intérieur de l'avion. Enfin, il avait véritablement une dimension charismatique, de fédératrice, à la fois en termes d'organisation, ce qui est relativement exceptionnel pour Malraux parce que c'était pas forcément là son point fort, et d'autre part en termes d'engagement. C'est-à-dire, il y a une dimension effectivement d'incitation de la collectivité autour de la personnalité de Malraux, qui est toujours, alors qu'il veille aussi à travailler sur l'imaginaire, il est toujours avec sa salopette d'aviateur, dessous très bien habillé, le soir il y a des repas, des points où il va faire des imitations. Enfin, il y a l'idée de fabriquer à la fois, d'être efficace, mais aussi de fabriquer une collectivité dont il a beaucoup jouit. C'est quelque chose qui correspondait à un rêve qu'il a vécu en direct.
Est-ce que la camaraderie, l'amitié en Espagne, ça a été en quelque sorte une rétribution à son engagement, une rétribution à sa mise en danger?
Oui. Et je pense qu'il y a trouvé un sens à l'existence, ce qui est quand même une recherche permanente chez Malraux. Avant la déception ou la désillusion que constituera l'échec de cette guerre, hein, puisque les franquistes vont gagner. Mais je pense que c'est un moment absolument fondamental. Et on pourra noter que la plupart des amis et des copains qu'il a connus à ce moment-là, et qui sont plutôt à gauche, enfin qui sont plutôt du côté des communistes, vont le rester, y compris quand Malraux va passer du côté du gaullisme et que ça sera pris pour une trahison de la part d'une grande partie de l'aile gauche de l'intelligentsia française et évidemment des gens qu'il avait fréquentés dans la première partie de sa vie.
D'un point de vue militaire, cette fois, est-ce que l'escadrille de Malraux, qui s'est d'abord appelée Escadrille España et ensuite que les aviateurs et son équipe ont souhaité rebaptiser Escadrille Malraux, d'un point de vue militaire, quelle a été son importance?
Alors, au regard de toute la guerre d'Espagne, il faut lui redonner la place qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fondamentale. C'est d'ailleurs une des critiques qu'on a pu adresser à Malraux, qui, évidemment, après, a pris le relais sur le plan du récit et, dirait-on, peut-être de la mythomanie. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'au tout début, finalement, de ce conflit, puisqu'il intervient relativement tôt, cette escadrille, elle a permis, par un certain nombre de missions, de ralentir l'avancée des franquistes vers Madrid. Et elle a pu, de façon ponctuelle, détruire des avions et notamment un aéroport qui était un aéroport clandestin. Il y avait une sorte de terrain clandestin. Et donc, elle a eu des effets de sabotage indéniable et de ralentissement, en fait, de l'avancée des franquistes vers Madrid. Une partie, d'ailleurs, de l'espoir se situe à Madrid, avec Madrid qui flambe, avec des bombes incendiaires. Et Malraux s'inspire, évidemment, de ce qu'il a pu voir à cette époque-là.
Tout à l'heure, nous avons évoqué le nom de Paul Nothomb, qui défendait l'implication totale de Malraux durant la guerre d'Espagne. Nous avons cherché longtemps en vain la voix de cet homme dans la salle des archives, pour finir par retrouver sa trace, mais sous un autre nom, celui de Julien Seigneur. Étrange, pourquoi décider, après la guerre, de modifier son identité? En réalité, ce changement de nom révèle un moment douloureux de la vie de cet homme, par ailleurs parent de l'écrivaine Amélie Nothomb, puisqu'il s'agit de son grand-oncle. Résistant belge sous l'occupation, Paul Nothomb a en effet été arrêté et torturé par la Gestapo en 1943 après avoir souvent risqué sa vie pour défendre la démocratie. Sous la contrainte, il a livré des informations qui ont conduit à l'arrestation d'autres membres de son réseau. Condamné pour cela après la guerre, il a ensuite été réhabilité. Mais la blessure de cette période n'a jamais été totalement effacée. C'est donc sous ce pseudonyme de Julien Seigneur qu'il apparaît dans une archive du 26 décembre 1980, comme s'il ne voulait plus utiliser publiquement le nom de Paul Nothomb. Dans ce document, il parle d'un accident d'avion au sein de l'escadrille de Malraux dont il faisait partie pendant la guerre d'Espagne.
Le 27 décembre 1936, deux avions décollaient du champ de la Señora et un s'est écrasé au décollage dans lequel se trouvait André Malraux qui devait participer à cette mission. L'autre est parti, n'est pas revenu à l'heure dite et puis peu après est arrivé un coup de téléphone nous disant qu'il s'était écrasé dans la Sierra de Teruel et André Malraux est tout de suite parti en voiture au lieu le plus proche de l'endroit indiqué qui n'était pas accessible en voiture et de là qui était Linares, il a pris des mules et une caravane s'est faite pour aller jusqu'à cet avion qui était tombé dans la montagne de Val de Linares, exactement comme il explique, nous venons d'en avoir la confirmation, puisque le témoin nous a dit que 40 habitants au moins étaient montés pour voir ce qui se passait, qu'ils ont recueilli les blessés. Il a bien décrit qu'il y avait 3 blessés, un pilote mort, qui est donc Saïdi, en réalité qui s'appelait Belaïdi, un Algérien, un indemne qui était Florin, premier pilote, et il se rappelait du nez coupé de Maréchal. Donc c'est un témoin absolument sûr.
J'ai eu la chance de rencontrer Paul Nothomb et sa femme, qui étaient des personnages absolument extraordinaire. Alors, pour reprendre ce que vous avez dit sur sa biographie, on pense de façon quasiment certaine que le passage final de l'oraison funèbre que André Malraux rédige pour Jean Moulin parle de Paul Nothomb. Quand il dit ceux qui n'ont pas parlé est pire, ceux qui ont parlé dans l'époque de la, enfin dans le passage sur la torture avec la baignoire, et on pense que c'est un hommage indirect à Paul Nothomb.
Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce en ayant parlé.
Et Malraux restera d'ailleurs au passage un grand ami. Enfin, il y aura une sorte de fidélité, sachant qu'au départ, cette amitié avec Paul Nothomb, elle peut être un petit peu chaotique, parce que Paul Nothomb, quand il arrive à l'escadrille, il est très communiste pour le coup. Et pour le coup, c'est assez intéressant de voir comment Malraux a pu, jusqu'à un certain point, fédérer et unir des gens qui, a priori, étaient véritablement au sein de son escadrille, des gens qui s'opposaient.
Par bien des aspects, la guerre d'Espagne aura été pour Malraux une étape de plus vers la désillusion. C'est en tout cas ce que l'on se dit à l'écoute de cette interview de Georges Semprin, qui date de décembre 1980.
Je crois que vraiment l'expérience de Malraux, cette expérience militaire et combattante et politique, a beaucoup nourri son livre. L'énorme chance de Malraux, c'est son immense talent, c'est-à-dire la capacité d'être comme les personnages de son livre, ou comme l'idéal d'un des personnages de son livre, capable de transformer en conscience, et littéraire dans ce cas-là, la plus grande expérience possible.
Curieusement, alors que l'expérience espagnole a peut-être été la plus marquante de sa vie, André Malraux n'en parle plus lorsqu'il aborde ses mémoires. Ni dans les Antimémoires, ni dans la suite du Miroir des Limbes, il n'est question de l'Espagne. Simple oubli, manque de temps, pourquoi silence sur l'Espagne ?
Vous avez très raison de poser cette question ou de souligner ce fait. Je crois que ce traumatisme ou cette blessure est ouverte jusqu'à la fin. Et que Malraux préserve une certaine image de son expérience espagnole et fait un effort, peut-être inconscient, ou peut-être sans effort, il n'y revient pas. À mon avis, parce que c'est une chose très, très, très importante de sa vie. Et qu'on ne peut s'expliquer des évolutions politiques de Malraux ultérieures, et même peut-être des excès, à mon avis personnel, dans cette évolution, comme une espèce de prix payé, de compensation, de revanche autodestructive de ce qu'a été la désillusion et la désespérance de l'espoir.
Son escadrille décimée, ses avions à terre, Malraux voit sa mission espagnole terminée de fait. Un mois après le dernier vol de son dernier avion, il est déjà à New York et porte la bonne parole de la cause espagnole aux étudiants de l'Université de Columbia. Nous avons retrouvé ce document, il date du 20 mars 1937.
Je crois qu'il est bon que les étudiants aient ici leur responsabilité et qu'ils soient pour quelque chose dans le fait que dans ces cris d'Espagne qui sont aujourd'hui des cris de première victoire, la voix des États-Unis soit ce grondement qui vient de l'autre côté de l'océan pour recouvrir chez nos blessés le bruit sourd de la souffrance humaine.
It is good that students have their share of responsibility here. It is good that they help fortify the swelling voice in the United States in the joyous cries of first victories in Spain. So that this mounting tide of democratic voices be the roar which comes from the other side of the ocean to muffle the dull noise of human suffering.
La véritable guerre d'Espagne commence.
The real war in Spain is just beginning now.
Avec ses tournées à l'étranger, Sophie Doudet, Malraux essaye donc de récolter des fonds. On voit qu'au fond, il ne s'arrête jamais de combattre. Et s'il ne peut plus le faire dans les airs ou directement en Espagne, il le fait en utilisant sa notoriété.
Oui, et on retrouve d'ailleurs au passage un grand talent oratoire. Alors, ce qui est assez intéressant dans la conjonction de vos deux archives, c'est que la première parle de désillusion, puisqu'elle parle de la fin, alors que celle-là, on voit bien qu'il est en tension, on est en 1937, il croit encore qu'il y aura une intervention, qu'il y aura aussi qu'il y aura de l'argent, qu'il va pouvoir mobiliser lui-même à la fois pour de l'argent, mais surtout aussi intellectuellement. On a le Malraux conquérant, le Malraux qui est actif, qui est inventif aussi pour trouver ces images, qui court aussi, hein, ce que vous dites, Mathieu. On a l'impression, il court et peut-être il fuit. Certains biographes disent quand même que à chaque fois qu'il a croisé un échec ou que quelque chose s'est arrêté en lui, il y a eu compensation. Et la compensation, c'est l'écriture. On sait qu'il écrit à ce moment-là. Et c'est aussi de passer sur un autre domaine de l'intervention qui est là, pour le coup, l'intervention orale, discursive, et qui correspond à la continuité de la lutte antifasciste.
On se rend compte, Sophie Doudet, de la clairvoyance quand même de Malraux sur cette guerre d'Espagne, qui en annonce donc une autre. Là où il n'est pas très clairvoyant, c'est précisément sur la grande figure qu'est à l'époque Joseph Staline. On peut dire qu'il a vraiment mis du temps à comprendre que c'était un criminel. Comment est-ce que vous expliquez cela ?
Alors, est-ce qu'il a mis du temps ou est-ce qu'il a dit qu'il mettait du temps. Je pense que chez Malraux, il y a une fascination pour ce qu'il appelle les grands hommes, c'est-à-dire les hommes de pouvoir. Et on pourra filer la comparaison avec Mao plus tard. D'autre part, il y a un enjeu qui est pragmatique. Critiquer l'Union soviétique dans un contexte qui est celui de la guerre d'Espagne, c'est mettre un couteau dans le dos. Mais clairement, il n'y a pas du tout une position aussi nette que celle, par exemple, d'André Gide. Il faudra attendre l'après-guerre. Et il n'est pas le seul à tenir cette idée que jusqu'à la signature du pacte germano-soviétique, l'Union soviétique est probablement le pays le plus à même, en termes d'armes, en termes de poids, de tenir tête à Hitler et aux fascistes en Europe.
Mais il y a quand même un paradoxe dans le marxisme de Malraux, c'est que lui, c'est un grand individualiste. Et a priori, le marxisme, c'est plutôt le collectif d'abord.
Et c'est pour ça qu'il n'est pas véritablement communiste. Mais je dirais qu'à un moment donné, il devient un compagnon de route. Il ne prend pas sa carte au parti. Et clairement, c'est un électron libre.
Mais alors, si on peut essayer de résumer, quel serait le communisme de Malraux, selon vous ?
J'aimerais dire un narco-syndicalisme, mais je pense que je le croise trop avec un autre écrivain qui est Albert Camus. Je dirais que c'est quelqu'un qui est viscéralement amoureux de la liberté et qu'à ce titre-là, la notion de communisme le gêne systématiquement dans ce qu'elle a de collectiviste. Mais évidemment, le communisme et la révolution incarnent aussi cet imaginaire de liberté et de fraternité. Je pense que ce qu'il a pris au communisme et à qui il le rendra toujours, c'est la notion de fraternité. Mais il va la retrouver évidemment de façon différente dans le gaullisme.
Il y a une grande part de psychologie personnelle dans l'engagement d'André Malraux. Pour lui, risquer sa vie pour une cause est aussi une façon de donner un sens à sa vie. Il n'en reste pas moins que concrètement, ce n'est pas pour lui, mais pour la civilisation à laquelle il croit qu'il se bat, la civilisation de la culture, de l'art et d'une certaine éthique de vie. Avec l'invasion allemande et l'occupation de la France, ses pires prédictions vont se réaliser dans le déferlement des fascismes sur l'Europe. Pourtant, avant d'agir, sa réaction va être d'abord d'attendre encore. Nous vous raconterons pourquoi au cours du prochain épisode.